Europe 1, votre matinale info, Thierry Dagiral.
Toute l'information avec Florence Cohen. Rebonjour Florence.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Il est 8h sur Europe 1.
J'ai sauté au plafond, c'est un soulagement. Vaut mieux tard que jamais, qu'il soit plus président. Quel soulagement. Pour moi, c'est le pire président de l'Olympique de Marseille.
Le grand ménage à l'Olympique de Marseille. Président limogé, entraîneur remplacé par Jorge Sampaoli, supporter soulagé.
Nice et Dunkerque confinés pour le week-end. Dans le Nord, on va s'occuper comme on peut, vous l'entendrez.
Pour les États-Unis, c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite qui a validé l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. C'était il y a 2 ans en Turquie. C'est faux, répond Riyad.
Depuis le TGV à 40 ans, record mondial à 380 km/h. C'était en 1981, et une magie qui opère toujours.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La grande lessive à l'Olympique de Marseille. Le propriétaire américain du club limoge le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault. Il sera remplacé par le directeur sportif Pablo Longoria et l'OM, qui a aussi un nouvel entraîneur en la personne de Jorge Sampaoli. Ça fait beaucoup de changements, hein, tout ça, pour les supporters d'une équipe en pleine crise. Franck McCourt, le propriétaire du club, viendra d'ailleurs les voir bientôt, Stéphane Frangy.
Il n'y croyait plus au départ de Jacques-Henri Hérault, alors évidemment, le sang de Gabi n'a fait qu'un tour quand son téléphone a bipé.
J'ai sauté au plafond. J'étais sur le canapé, quand je me suis connecté sur Twitter et que j'ai vu ça. J'ai sauté au plafond. C'est un soulagement. Vaut mieux tard que jamais. Qu'il soit plus président, quel soulagement.
On en retient quoi de Jacques-Henri Hérault?
Rien du tout. Pour moi, c'est le pire président de l'Olympique de Marseille.
De la joie, oui, mais de la méfiance également, car Jacques-Henri Hérault reste dans l'organigramme du club en tant que membre du conseil de surveillance. Et puis surtout, les effets d'annonce du propriétaire du club, Franck McCourt, eh bien, Thierry a appris à s'en méfier.
McCourt a dit qu'il venait sur Marseille, qu'il allait rencontrer les groupes de supporters, qu'il allait avoir de gros changements. Enfin, si on se rappelle, en octobre 2016, on devait finir dans les 3 premiers, on devait jouer la Champions League, on devait battre le PSG tout le temps, et puis on a vu le résultat. Donc, j'attends de voir.
Mais certains veulent tout de même croire à des jours meilleurs avec l'officialisation également, et c'est une des informations de ce communiqué, du nouvel entraîneur, l'Argentin Jorge Sampaoli. Marseille, Stéphane Frangy, Europe.
Et encore un mot de football avec la 27e journée de Ligue 1. Hier soir, Nice est allé battre Rennes 2-1. À suivre notamment aujourd'hui Bordeaux-Metz et Dijon-PSG.
Florence, rideau sur les traditionnelles activités du week-end hein, sur le littoral des Alpes-Maritimes et dans l'agglomération de Dunkerque. Jusqu'à lundi 6h du matin, ni shopping, ni sortie longue.
Mais soulagement, les librairies pourront rester ouvertes. Elles ne sont plus classées commerce non essentiel. À Nice, les plages et une partie de la promenade des Anglais sont fermées. À Dunkerque, hier, les habitants ont profité du soleil de la plage de Malo-les-Bains, chacun avec sa petite idée de la façon dont il va pouvoir occuper ses 2 journées de confinement. Reportage de Lionel Gougelot.
C'est chiant un petit peu de rester confiné parce que tu peux pas trop te divertir, prendre l'air et tout et tout.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que du haut de ses 10 ans, Ziad ne semble pas emballé par la perspective de ces 2 jours d'enfermement.
La seule chose que tu peux faire, dormir, jouer chez toi avec des écrans ou bien regarder la télé, c'est tout.
Alors Sia, la maman, promet de tout mettre en œuvre pour tromper l'ennui de Ziad et de ses frères et sœurs.
De toute façon, on aura du coloriage, comme toute maman, on va avoir des activités, on va les faire à la maison. Quoi. Après les vacances, on a toute la semaine pour faire sortir les enfants, on va s'adapter. Hein.
2 jours de confinement, voilà un petit air de déjà-vu pour Sylvain.
Ce week-end, je vais bricoler, je vais jardiner, laver la voiture. J'ai fait exactement la même chose il y a un an. J'ai commencé mon confinement par laver ma voiture et puis par m'occuper de mon jardin. Mais au bout de quelques semaines, on finit par plus savoir quoi faire. Quoi.
Et pour Nadia, la retraitée, pas question de se laisser aller à la mélancolie.
On va prendre son mal en patience, on va regarder des séries, et puis voilà quoi.
Quant à Noémie, elle va abandonner le temps d'un week-end de son copain Tanguy pour une zone non confinée.
Vu que je suis du côté de Calais, on n'a pas encore les restrictions, donc je pense que je vais du côté de ma famille, voir un peu ma famille, et puis rester là-bas ce week-end.
Et lundi, ce sera le retour à la normale. En attendant, un prochain week-end sous cloche. Dunkerque, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et hier, 25 000 cas de Covid en plus à l'échelle de la France, plus de 86 000 décès au total. Un adolescent de 15 ans a été tué par balle hier à Bondy, c'est tout à côté de Paris. Il se trouvait dans une maison de quartier quand un tireur l'a abattu et pris la fuite à scooter. Aucune interpellation pour le moment. Ce meurtre intervient après que 2 adolescents ont été tués cette semaine dans l'Essonne. Un autre adolescent de 15 ans est mis en examen après la rixe mortelle de Boussy-Saint-Antoine.
8h05, c'est un document du renseignement américain. Il permet de voir l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi sous un nouveau jour, Florence.
Oui, c'était il y a 2 ans et demi. au consulat saoudien d'Istanbul en Turquie. Pour les Américains, c'est le prince héritier saoudien en personne, Mohamed Belsalman, qui a validé ce meurtre. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le rapport cite nommément le prince héritier d'Arabie Saoudite.
Oui, le nom de Mohamed Ben Salman apparaît à plusieurs reprises et c'est écrit noir sur blanc dans ce court document de 4 pages. Il a validé une opération pour capturer ou tuer Jamal Khashoggi. Le prince saoudien considérait le journaliste comme une menace pour le royaume. Il avait un contrôle absolu sur les services de renseignement et de sécurité saoudiens, souligne le rapport, ce qui rend hautement improbable l'hypothèse d'une telle opération sans l'accord du prince. Dans la foulée, Washington a annoncé la création d'un Khashoggi ban, des restrictions de visa à l'encontre de 76 ressortissants saoudiens accusés d'avoir menacé des dissidents à l'étranger. En revanche, pas de sanctions directes contre Mohamed Ben Salman pour ne pas trop miner les relations avec Riyad.
Alexis, en tout cas, la publication de ce rapport, c'est le symbole de la nouvelle donne que Joe Biden, le nouveau président américain, veut imposer à l'Arabie saoudite.
Oui, parce que Donald Trump n'a jamais voulu rendre public ce rapport, ni blâmer officiellement Mohamed Ben Salman. L'Arabie saoudite est trop importante pour les États-Unis. Riyad est un gros acheteur d'armes américaines et lutte contre l'Iran au Moyen-Orient. Joe Biden, lui, avait annoncé la couleur pendant la campagne. Il voulait traiter le royaume comme un État paria qui ne respecte pas les droits de l'homme. Alors depuis, le ton s'est adouci. La Maison-Blanche parlait cette semaine de vouloir recalibrer la relation avec Riyad. Et le nouveau président a déjà pris quelques mesures, dont l'arrêt du soutien américain à la coalition militaire engagée au Yémen, coalition qui est menée par l'Arabie saoudite.
Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis et l'Arabie saoudite qui fait savoir qu'elle rejette totalement ce rapport du renseignement américain.
Restez avec nous dans un instant sur Europe 1, on ouvre notre dossier agriculture. On revient dans quelques minutes.
Europe 1, votre matinale info, Thierry Dagiral.
8h09, la suite du journal de Florence Cohen. On revient à présent sur les conséquences de la pandémie de Covid en ouvrant un dossier qui nous tient à cœur sur Europe 1. Vous savez que le salon de l'agriculture est annulé cette année. Alors toute la semaine prochaine, Europe 1 va aller à la rencontre des agriculteurs, des émissions spéciales et bien sûr vos rendez-vous d'information en direct de la ferme.
Et alors le Covid, on en reparle, il a fait beaucoup de perdants dans cette histoire. Et aussi quelques gagnants, les producteurs de fruits et de légumes notamment. Ils ont pu profiter de nouvelles habitudes de consommation. Exemple, au marché d'intérêt national de Nantes, c'est le deuxième de France après Rungis en termes de chiffre d'affaires. Reportage de Charles Guyard.
Quand il n'y a pas de bruit, c'est mort. Hein. Le bruit, c'est la vie.
Le bruit, c'est surtout signe que les affaires marchent bien. Hein. Et dans le carreau des fruits et légumes, ça ne manque pas dès 4 heures du matin. Dans un vacarme incessant, Alain jette un œil satisfait sur son emplacement.
C'est bien goupillé, le camion est presque vide là, c'est parfait.
Voilà des mois en fait que ce producteur de la région nantaise se frotte les mains chaque jour avec son fils Laurent. La crise liée à la pandémie, connaît pas.
Je pense qu'on a peut-être un peu mieux vendu même. Certains clients prenaient beaucoup plus, je sais pas, d'habitude ils prennent 3 colis de radis, et là ils en prenaient au moins 10-12 et c'était un peu la folie. On a fait une très bonne année.
Cette euphorie, elle est unanime ici. C'est un fait, la fermeture des restaurants et des traiteurs n'a pas porté un coup fatal à la filière qui a su trouver d'autres débouchés. Épicerie de quartier, maraîcher, circuit court, Jacques et François s'en félicitent.
Ce qu'on a pu perdre d'un bout, on l'a récupéré de l'autre. Tout le monde a besoin d'un cajou de salade. Au bout du compte, ça représente pas mal de marchandises.
Les gens, ils ont plus de temps, donc ils cuisinent plus chez eux. Et ça, c'est à tout à notre avantage. La crise a aussi des bons côtés.
Radis, poireaux, céleri et la fameuse mâche nantaise, la crise a surtout remis du local en tête des listes de courses.
On voit énormément de gens revenir vers nous.
Pascal, grossiste et producteur.
Les produits d'importation espagnole, ça a été un petit peu plus compliqué.
Et reste à espérer maintenant que cette tendance perdurera au retour à la vie normale. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Et on en parle tout de suite avec notre invité Thierry Pouche, responsable des études économiques des chambres d'agriculture françaises. Bonjour Thierry Pouche.
Bonjour.
On l'entend, la filière maraîchère semble plutôt bien se porter dans le cadre de ces négociations commerciales. Est-ce que vous le confirmez et à quoi est-ce dû?
C'est vrai que la filière maraîchère se porte pas trop mal parce qu'il y a eu les effets de la crise sanitaire avec le confinement,
oui,
où les consommateurs se sont repliés sur des productions françaises. Bon, il y a eu l'aléa climatique qui a un peu endommagé les productions, mais finalement, ça s'est plutôt pas trop mal passé et les prix sont remontés. Donc la négociation peut finalement bien se passer puisqu'il y a quand même une demande des consommateurs.
Alors ça, c'est pour les maraîchers, mais il y a quand même de grandes disparités encore cette année.
Ah oui, ça c'est un constat qu'on peut faire. Hein. Les négociations sont tendues sur des filières comme la volaille, les œufs, un peu la viande porcine, le lait aussi un petit peu, dans la mesure où ces éleveurs ont quand même été exposés à une flambée des prix des matières premières qu'ils utilisent pour la nourriture du bétail. Donc pour les éleveurs, c'est quand même compliqué maintenant. Et donc on retombe évidemment sur la problématique du partage de la valeur ajoutée au sein des filières. Et pourtant, la loi Egalim de 2018 avait quand même mis en place une bonne perspective qui faisait consensus d'ailleurs sur le rééquilibrage des relations commerciales entre les agriculteurs, les transformateurs et la distribution. Donc comment faire ? D'abord, il faudrait peut-être appliquer la loi. C'est-à-dire faire en sorte que tout ce qui permet à certains acteurs de contourner la loi Egalim soit contrôlé, voire même sanctionné. Après, dans les filières, il faut tendre vers une logique plus partenariale, donc faire en sorte que chacun prenne sa responsabilité pour que aucun acteur ne reste sur le bord de la route, ce qui permettrait du coup de peut-être envisager un peu plus de transparence sur les marges pour mettre sur la table toutes les contraintes, toutes les opportunités qui se présentent aux acteurs de façon à trouver une issue.
Merci à vous Thierry Pouche, responsable des études économiques des chambres d'agriculture françaises. Et bien sûr, on va continuer à en parler dans un instant puisque je reçois le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie.
Le TGV a 40 ans, figurez-vous, record à 380 km/h avec le président François Mitterrand à bord en 1981. La rame a été retirée, mais la magie est toujours intacte, Élise Dangean.
Monsieur, bonjour, je vous souhaite la bienvenue à bord de ce TGV.
C'est une rame mythique, la dernière en état de circuler, entretenue sur leur temps libre par des cheminots passionnés. Antoine Leroy en fait partie, il a la chance aujourd'hui d'être aux commandes de ce train. Pour fêter les 40 ans de son record, la rame 16, qui a parcouru plus de 13 millions de kilomètres, redémarre. Et forcément, pour Antoine, le conducteur, le bonheur est immense.
Ça procure une grande émotion et on pense tout de suite à nos aînés, notamment à Gabriel Jacot, à Jacques Ruiz, ces artisans du record de 1980.
Et c'est plus qu'une prouesse, selon Florence Brachet-Champsort, directrice du patrimoine de la SNCF.
C'était une façon aussi de montrer qu'on pouvait rouler en toute sécurité.
Aujourd'hui, fini les records de vitesse, mais les enjeux restent majeurs, explique Benjamin Hutteau, directeur industriel du TGV.
Ça nous rappelle que l'ADN du TGV en France, ça a toujours été un ADN d'innovation technique. Il y a 40 ans, les défis, c'était d'aller chercher une vitesse exceptionnelle. On continue aujourd'hui à innover.
Innover avec des TGV qui pourront accueillir toujours plus de passagers bourrés de technologie et plus écologiques que jamais.
Élise Dangean, voilà, c'était le journal de Florence Cohen. Merci Florence. Retour de l'info, 8h30 avec Sébastien Guyot.